VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington, Chérubin Dorsil et Morgane Guiriec.
Bonsoir à tous, bienvenue à cette édition du vendredi 30 octobre 2015. Au sommaire ce soir.
Violence en République centrafricaine, des affrontements font 5 morts à Boali, à 95 km au nord de Bangui.
République du Congo, l'opposition décide de ne pas manifester contre le référendum constitutionnel.
Les Burkinabés commémorent la chute du régime de Blaise Compaoré.
Les autorités de la transition ont tenu à rendre un hommage mérité à ceux qui ont donné de leur vie pour sauver la démocratie, et cela à travers une série d'activités.
Polémique au Niger autour du fichier électoral pour les élections de 2016.
Le fichier électoral ne sera pas disponible à la date indiquée pour cause. L'affichage des listes provisoires n'est pas encore terminé.
Syrie, sur le terrain, c'est la dialectique des armes. Entre-temps, à Vienne, les puissances régionales et mondiales cherchent une solution politique.
Et nous aurons l'économie et les sports tout de suite après le journal.
En République centrafricaine, alors que la tension est toujours vive dans une partie de la capitale et au centre du pays, au moins 5 personnes ont été tuées dans un affrontement entre miliciens anti-Balaka à Boali et à 95 km au nord du pays. On fait le point avec notre correspondant Freeman Sipila.
D'hommes armés en provenance de Pika-5 et signalé dans la journée au carrefour menant à Katin. Cependant, un autre groupe d'hommes armés assimilé aux anti-Balaka est repéré à quelques mètres de là, précisément aux abords de l'avenue Semak, non loin de la paroisse Notre-Dame de Fatima. Cette paroisse menacée hier par la milice armée de Pika-5 est désormais sécurisée par des casques bleus de la MINUSCA. Difficile de sillonner ces quartiers totalement déserts à la suite des événements d'hier obligeant la quasi-totalité des habitants à fuir vers les quartiers plus au sud. Des pertes en vies humaines auraient été enregistrées, en plus des dizaines de maisons et commerces incendiés. Par ailleurs, au moins 5 personnes ont été tuées mercredi et jeudi dans des affrontements entre deux factions anti-Balaka rivales à Boali, ville située à 95 km au nord de Bangui. Freeman Sipila, Bangui, VOA Afrique.
La présidente de la transition, Catherine Samba-Panza, a procédé à un remaniement ministériel en RCA, alors que le gouvernement tente de préparer des conditions apaisées pour les prochaines élections. Pascaline Magalé a joint le Premier ministre Mahamat Kamoun.
Il s'agit d'un réaménagement technique et comme vous le savez, il y a de cela quelques jours, j'ai été interpellé au Conseil national de transition pour m'expliquer sur la situation sécuritaire ainsi que sur le processus électoral. Donc nous avons suivi les préoccupations des conseillers nationaux autour de cette question de sécurité et ensuite nous sommes dit qu'il fallait procéder à ce remaniement pour tenir compte des préoccupations, pour tenir compte des attentes de la population. Donc voilà pourquoi nous avons ce réaménagement technique qui concerne principalement les postes de la sécurité et de la défense.
Le Premier ministre centrafricain Mahamat Kamoun.
L'opposition congolaise a annoncé ce vendredi à Brazzaville l'annulation des marches auxquelles elle avait appelé dans tout le pays pour contester les résultats officiels du référendum constitutionnel de dimanche. Ce scrutin permet au président Denis Sassou Nguesso de se représenter en 2016. On fait le point avec Jean-Roger Billon.
Vous savez, quand on a affaire à un adversaire qui compte que sur la force publique, pour tirer à balles réelles sur vos militants, vous êtes obligé d'utiliser des artifices pour le mettre en déroute. Donc nous avions annoncé la marche, qui dans leur concept est une offensive pour qu'ils prennent des dispositions disproportionnées que nous attendions, afin qu'au résultat, la ville soit en émoi. Et ça n'a pas raté. Mais après, nous avons redéfini notre activité pour que nos militants y participent tranquillement, en paix, en disant simplement les résultats du référendum qui ont été annoncés publiquement par le pouvoir en place sont faux et donc de nul effet.
30 octobre 2015, c'est aujourd'hui l'anniversaire de l'insurrection ayant renversé Blaise Compaoré au Burkina Faso. Il y a un an jour pour jour, les Burkinabés disaient non à la modification de leur constitution. Ce vendredi, dépôt de gerbes de fleurs, minute de silence à la mémoire de ceux qui sont tombés pour cette cause. Le clou des commémorations est prévu demain dans le cadre de la journée des martyrs. Zoumana Wonogo.
En ce vendredi 30 octobre, premier anniversaire des débuts de l'insurrection populaire, les Burkinabés se sont rendus massivement au cimetière de Gounguin, où reposent les martyrs, pour le dépôt des gerbes de fleurs sur les tombes de ces valeureux filles et fils de la nation, a dit Chérif Sy, le président du CNT, Conseil national de la transition, à valeur d'Assemblée nationale. Juste après, la sirène a retenti et tout le Faso s'est arrêté pour observer une minute de silence en hommage aux martyrs. Pour marquer sa reconnaissance à leur endroit, le gouvernement a adopté une dizaine de décrets portant sur la prise en charge, l'éducation, l'emploi, le logement pour les orphelins, les veuves et veufs de ceux-là qui ont payé le prix fort pour que le Burkina Faso soit libéré du régime de Blaise Compaoré. Ousmane Ouédraogo, Ouagadougou, VOA Afrique.
Au Niger, des lycéens et des collégiens ont entamé ce mercredi une grève de 48 heures. D'après l'AFP, ils exigent la libération de 38 camarades arrêtés lors d'une manifestation la semaine dernière. Il faut dire que les lycéens et les collégiens manifestent depuis la rentrée pour obtenir de meilleures conditions de travail.
En Guinée, la France va consacrer 174 millions d'euros pour aider notamment au renforcement du système de santé après l'épidémie du virus Ebola, rapporte l'AFP.
En Tanzanie, le nouveau président John Magufuli appelle à l'unité nationale alors que le résultat de l'élection est toujours contesté par l'opposition.
Radio France Internationale exige des nouvelles d'un de ses correspondants arrêtés en juillet au Cameroun. Ahmed Abba avait été interrogé puis interpellé en juillet dans le cadre d'une enquête sur les activités du groupe islamiste Boko Haram dans le nord du Cameroun.
Soudan du Sud, l'UNMISS, la mission de l'ONU sur place, demande la libération immédiate de ces 12 contractuels enlevés lundi par des rebelles. Leur capture pourrait constituer un crime de guerre, souligne l'ONU.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Guerre en Syrie, 40 personnes sont mortes ce matin dans des bombardements à Douma, en banlieue de Damas, tenue par la rébellion. C'est dans ce contexte de violence que les pourparlers de Vienne sur le règlement politique du conflit ont débuté aujourd'hui. Le point avec Isha Sarai.
Pour la première fois, l'Iran est invité à discuter de cette crise qui a fait plus de 250 000 morts en 4 ans. La présence de l'Iran est significative. Soutien clé de Damas, Téhéran n'était pas aux précédentes pourparlers sur la Syrie à Genève à la demande des États-Unis et de l'Arabie saoudite. Le secrétaire d'État américain John Kerry a dit que cette conférence est l'occasion la plus prometteuse de ces dernières années de parvenir à une solution politique. Mais le chemin vers une solution négociée risque d'être long à cause des positions éloignées des différents protagonistes. La question centrale porte sur la mise en place d'un processus de transition politique et la formation d'un gouvernement représentatif de toute la Syrie, à l'exclusion des groupes islamistes radicaux. La Turquie et l'Arabie saoudite veulent le départ le plus tôt possible de Bachar al-Assad, alors que la Russie et l'Iran insistent sur au moins des élections.
L'administration Obama a autorisé le déploiement d'un contingent de moins de 50 soldats dans le nord de la Syrie. Ce groupe servira de complément aux forces spéciales américaines en vue de coordonner les actions des troupes locales au sol et participera aux efforts de la coalition contre l'organisation État islamique. Barack Obama a aussi ordonné l'envoi d'autres avions de combat, dont des F-15, à une base de l'OTAN en Turquie.
Une trentaine de migrants ont perdu la vie ces dernières 24 heures en Espagne, en Turquie et en Grèce. John Lyndon.
Les corps sans vie de 4 migrants ont été récupérés par les secours au large du Maroc. Ces personnes ont trouvé la mort lors d'une traversée entre le Maroc et l'Espagne à bord d'une embarcation de fortune. Selon l'AFP, sur la cinquantaine de personnes qui faisaient partie du groupe, 15 personnes seulement ont été retrouvées saines et sauves. En Turquie, l'on parle également de morts et cette fois, ce sont 4 enfants syriens âgés de 1 à 4 ans qui se sont noyés au large des côtes de la Turquie après le naufrage d'une autre embarcation de migrants qui se dirigeait, elle, vers l'île grecque de Lesbos. La Turquie, qui accueille officiellement 2,2 millions de réfugiés syriens, est le point de départ favori de nombreux migrants qui prennent la mer dans des conditions périlleuses à destination des îles grecques, point d'entrée dans l'Union européenne. En Grèce, justement, le bilan est plus lourd. Au moins 22 migrants, dont 13 enfants, se sont noyés dans la nuit de jeudi à vendredi matin au large des îles grecques de Kalymnos et Rhodes, dans 2 nouveaux naufrages de bateaux venus de Turquie.
Un bébé palestinien de 8 mois est mort, aujourd'hui asphyxié par des gaz lacrymogènes tirés par l'armée israélienne près du domicile de sa famille à Bethléem, en Cisjordanie. C'est ce qu'a indiqué à l'AFP un porte-parole du ministère de la Santé palestinien. Par ailleurs, les forces de sécurité israéliennes ont abattu un Palestinien à Jérusalem-Est. La victime avait attaqué au couteau deux étudiants religieux israéliens. Et plus tôt dans la journée, un autre Palestinien a été tué, un troisième blessé après une attaque similaire contre des policiers près d'Hébron, en Cisjordanie occupée.
Le dernier prisonnier britannique de Guantanamo à Cuba vient d'être mis en liberté. Le secrétaire au Foreign Office, Philip Hammond, a confirmé ce matin que Shaker Amer, d'origine saoudienne, allait arriver en Grande-Bretagne ce soir. Il était détenu sur la base de Guantanamo depuis 2002, sans inculpation ni procès. Washington l'accusait de diriger un groupe de combattants talibans et d'avoir été en contact avec Osama Ben Laden. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique.
La Minute Écho avec Nathalie Barge.
Selon une étude de la Fondation Mastercard, beaucoup de jeunes Africains considèrent que l'agriculture n'est pas une profession viable, rapporte l'APA. Les résultats préliminaires de cette enquête sur le comportement des jeunes face au travail montrent que bon nombre d'entre eux sont obligés de faire de l'agriculture de subsistance. Les jeunes en Afrique doivent avoir plusieurs emplois pour survivre, indique l'étude, soulignant toutefois que beaucoup concrétisent diverses idées de micro-entreprises. La bourse de Johannesburg va enquêter sur de possibles délits d'initiés au sein de l'opérateur mobile MTN, sanctionné d'une amende de plus de 5 milliards de dollars par le régulateur de télécommunications nigérian pour ne pas avoir désactivé à temps toutes les cartes SIM incriminées, rapporte l'AFP. L'amende révélée lundi matin dans la presse nigériane a entraîné une vente massive d'actions MTN. La loi sud-africaine exige que les entreprises avertissent immédiatement leurs actionnaires de toute information susceptibles d'influer sur le cours de l'action. Les économies en voie de développement ont accéléré leurs réformes l'an dernier, selon le rapport Doing Business 2016 de la Banque mondiale, cité par Financial Afrique. L'Afrique subsaharienne, avec 69 réformes, soit 30% à l'échelle mondiale, est la région la plus dynamique en matière d'amélioration du climat des affaires. Dans le top 10 des meilleurs réformateurs, 5 pays africains, la Mauritanie, le Bénin, le Sénégal, l'Ouganda et le Kenya.
La Minute Écho, merci Nathalie Barge.
Et debout à nos côtés au studio 13, Bagassi Koura pour les sports. Salut Bagassi.
Oui, bonsoir cher Roubaix, bonsoir à tous.
Le premier coup de pédale du Tour du Faso a été donné ce vendredi.
Oui, les cyclistes ont pédalé de Ouagadougou à Waïguia dans le nord, soit une distance de 171 km. Retrouvons tout de suite Salif Kabore qui est sur la route du Tour.
Au cours de cette première étape, après 45 km de course, on a constaté que les Érythréens, les Burkinabés et puis les Marocains ont animé la course, puisque ce sont ces trois pays-là qui, de bout en bout, en tout cas, ont enlevé les trois points chauds qui étaient inscrits donc au programme de cette première étape. Et au finish, à l'arrivée, c'est l'Érythrée qui enlève donc l'étape de Waïguia, distant de 171 km en 4h14 minutes 30 secondes, soit une vitesse moyenne de plus de 40 km/h pour dire que les cyclistes sont allés très vite. Certains moments donc de la course, on a même vu que le peloton allait à 50 km/h.
Alors, c'était Salif Kabore, Bagassi. Au Canada, Didier Drogba propulse l'Impact de Montréal.
Oui, l'Impact s'est qualifié pour la première fois de son histoire pour les quarts de finale des playoffs de la MLS, le championnat nord-américain de football. Grâce à l'inévitable Didier Drogba, l'Impact a dominé son voisin et grand rival de Toronto 3-0, trois buts marqués, tous en première période. Drogba, âgé de 37 ans, a porté à 12 le nombre de ses buts en 12 matchs de MLS. Grâce à l'ancien capitaine de la Côte d'Ivoire, arrivé en G après un quatrième titre de champion d'Angleterre sous le maillot de Chelsea, Montréal réalise ainsi la plus belle saison de son histoire en MLS.
Bravo Drogba. En football, Messi pourrait rater le Classico.
Oui, il est blessé au moins jusqu'à mi-novembre et doit avant tout récupérer à 100%, ne pas tenir compte de la perspective du Classico. Vous savez, ce choc Real Madrid-FC Barcelone qui est programmé pour le 21 novembre prochain à ne pas rater.
Merci Bagassi Koura.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Morgane Guériec et Chérubin Dorsil en votre compagnie. Place au dossier du jour, première escale, Ouagadougou.
30 octobre 2015, c'est aujourd'hui l'anniversaire de l'insurrection qui a balayé le régime du président Blaise Compaoré. Un an après, le Burkina Faso rend hommage à ses martyrs. La journée a été marquée par une minute de silence sur l'ensemble du territoire et une cérémonie de dépôt de gerbes de fleurs. Reportage à Ouagadougou de notre correspondant Issa Napon.
Il est 9h40 en temps universel quand la sirène de l'hôtel de ville retentissait à Ouagadougou et dans tout le pays à travers une synchronisation des stations de radiodiffusion. Nombre de citoyens dans la circulation ont observé à Ouagadougou un arrêt d'une minute pour marquer leur adhésion à ce moment. Un an après l'insurrection populaire qui a emporté le régime de Blaise Compaoré, les autorités de la transition ont tenu à rendre un hommage mérité à ceux qui ont donné de leur vie pour sauver la démocratie, et cela à travers une série d'activités. Au cimetière de Gounguin, à l'ouest de la capitale, la fin de cette minute de silence a été suivie d'un dépôt de gerbes de fleurs sur les stèles en mémoire des martyrs. Pour le président du Conseil national de la transition, le sacrifice des jeunes ne sera pas passé aux oubliettes. Moumina Chérifsi.
Non, nous ne réclamons pas la justice. Nous disons que nous allons les rendre la justice. C'est une nuance importante parce que la justice va être rendue. On ne peut pas continuer à tuer impunément des fils et des filles du Burkina Faso.
Les familles des victimes de l'insurrection populaire attendaient jusque-là un meilleur traitement à la hauteur du sacrifice des leurs par le gouvernement de transition. Cette cérémonie vient quelque peu apaiser leur cœur, quoique leurs attentes soient loin d'être comblées. Pouaoulabou Péka Victor, président de l'Union des parents des martyrs de l'insurrection populaire d'octobre 2014.
C'est vrai qu'il y a eu un petit accompagnement. C'est 100 000 par là, quelques sacs de maïs, 2 sacs de riz, 4 sacs et un bidon d'huile. Ça n'a pas soulagé du tout les familles, mais je pense qu'ils ont pensé à nous. Mais nous demandons qu'ils fassent davantage, qu'ils fassent plus. Parce qu'une année durant là, nous avons souffert avec les enfants qui sont là. Il y a d'autres qui sont nés avant ou après le décès de leurs parents. Ils ont eu des petits accompagnements, mais je trouve que vraiment, c'était vraiment insignifiant.
Dans la foule, des jeunes se disent interpellés par la solidarité face à ceux des leurs qui sont tombés pour la patrie.
C'est une journée pas comme les autres. Nous ne pouvons que les soutenir parce qu'on n'y peut rien, ils sont déjà partis. Et nous espérons que la justice sera rendue.
Moi, j'ai une pensée spéciale pour tous ceux qui sont blessés, pour ceux qui ont perdu leurs proches. Mon vœu est qu'on ne se limite pas au discours populiste. J'ai côtoyé les blessés, mais jusqu'à ce jour, ce ne sont juste que des verbiages. Rien n'est fait concrètement.
À travers 10 décrets pris mercredi dernier en Conseil des ministres, le gouvernement burkinabé apportait un an après l'insurrection un début de réponse concrète aux attentes des familles des martyrs, dont la plupart démunis vivaient jusque-là dans une certaine indifférence. Issa Napon, Ouagadougou, VOA Afrique.
À noter que ces commémorations s'achèveront demain après-midi avec une cérémonie au pied du monument des héros nationaux à Ouagadougou en présence du président Michel Kafando.
La Voix de l'Amérique au Burkina Faso sur Ouaga FM, 105.2 à Ouaga et 101.1 à Bobo. La Voix de l'Amérique, c'est aussi sur Horizon FM, à Ouaga, Bobo, Koudougou, Wayigouya et Fada.
Au Niger, le fichier électoral en vue des élections générales de 2016 fait polémique. Il devait être remis demain à la Commission électorale nationale indépendante, mais cette date ne sera pas tenue puisque l'affichage des listes provisoires se poursuit encore et l'opposition a relevé déjà sur ces listes provisoires beaucoup d'anomalies. Abdulrazak Idrissa.
Prévu pour être remis à la Commission électorale nationale indépendante par le comité en charge de son élaboration ce 31 octobre, le fichier électoral ne sera pas disponible à la date indiquée. Pour cause, l'affichage des listes provisoires pour permettre aux électeurs de vérifier et probablement réclamer si des erreurs se sont glissées sur leur nom n'est pas encore terminé. Pourtant, que d'anomalies ont été relevées par l'opposition, notamment sur ces listes électorales provisoires. Moussa Harouna est le secrétaire à l'organisation du bureau politique national du MNS de Nassara, le principal parti de l'opposition.
Il est constaté que dans toutes les communes, des dizaines de milliers de personnes régulièrement enrôlées ne retrouvent plus leur nom sur la liste électorale. Des bureaux de vote sont littéralement vidés des inscrits. À titre illustratif, le bureau de vote numéro 4 de Damana Filenge, où sur 361 inscrits, seules 21 personnes ont leur nom, soit un manquement de 94%. Plusieurs personnes ont été recensées sans qu'ils aient le droit de vote. C'est le cas des nomades et réfugiés maliens. Les nomades en transhumance sont doublement inscrits.
Pour les responsables du comité chargé d'élaborer le fichier, il ne s'agit que d'anomalies mineures qui vont être corrigées avant la remise du fichier définitif. Abdoulaye Jubo, membre du comité.
Les gens s'impatientent. Par exemple, dans un quartier où il y a 14 bureaux de vote, tu regardes sur 4, 5, 6, 7 bureaux de vote, tu n'as pas vu ton nom, tu dis que mon nom a été omis. Or, il faut te patienter, il faut demander, parce que chaque bureau de vote a été élaboré en fonction des zones de dénombrement électoral. Et c'est à travers ces zones de dénombrement électoral que nous avons fait le bureau de vote. Ça veut dire que tant que tu n'es pas de cette zone de dénombrement électoral, tu ne vas pas voir ton nom. Sur ces localités-là, c'est de nom des autres que tu vas voir. C'est de cela qu'il s'agissait.
Pour dénoncer toutes ces anomalies et exiger un audit du dit fichier, l'opposition a appelé à une manifestation publique dimanche à Niamey. Une manifestation qu'elle compte tenir même au cas où elle est interdite, comme l'a été celle qu'elle a prévue la semaine dernière. Ousseyni Salatou, porte-parole de l'opposition.
J'aimerais rassurer les militants que ni l'arrestation de notre frère Daouda Dimaïga, ni cette intimidation sur des militants comme Samari ne mousseront en rien notre détermination à organiser notre marche du premier.
Abdulrazak Idrissa à Niamey pour VOA Afrique.
Au Rwanda, le projet de modification constitutionnelle approuvé par le Parlement sera passé en revue par le Sénat avant d'être soumis au référendum. En cas d'approbation, ce changement permettra au président Paul Kagame de briguer un autre mandat en 2017 avec, selon certains analystes, la possibilité de diriger le pays jusqu'en 2034. Timothée Donangmaï a recueilli la réaction d'Innocent Twaji Ramungu, juriste à Bruxelles.
Depuis l'indépendance de ce pays, on n'a jamais eu d'alternance politique pacifique à tête de l'État. Donc tous les présidents devaient partir dans le sang, avec la constitution de 2003 qui prévoyait des mandats présidentiels qui ne devaient en aucun cas, en tout cas, être prolongés. On espérait que ça inaugurait une sorte d'alternance politique obligée, même si peut-être une sorte de famille politique pouvait rester. Or, ce qui semble, en tout cas avec le projet adopté par le Parlement et qui doit être entériné au Sénat, c'est que le président Kagame aura encore 17 ans au pouvoir. Ça veut dire qu'il pourra remplir jusqu'en 2034, et ce qui le fera 40 ans exactement au pouvoir, parce que depuis 1994, il est au pouvoir. C'est un signal donné aux acteurs du changement au Rwanda qu'il n'y a pas d'autres armes démocratiques à utiliser que de recourir à la force comme le seul moyen de pouvoir accéder à la magistrature suprême et à quoi que ce soit démocratiquement au Rwanda.
D'aucuns disent que le Rwanda, sous le président Kagame, a fait des progrès du point de vue du développement économique, du point de vue de la lutte contre la corruption et même la parité homme-femme, et que, de ce fait, le pays n'a pas besoin d'alternance.
C'est pas vrai, parce que d'une part, on ne peut pas quand même dire qu'il n'y a pas un pas dans le développement au Rwanda, mais je vous appelle que dans les années 80, ici en Occident, on chantait que le Rwanda était la Suisse de l'Afrique. Au niveau de la corruption, j'y mets vraiment un bémol, parce que la dernière retraite politique qu'a organisée le président Kagame le 1er mars 2015 avec les dirigeants du pays, il a pointé nommément certains ministres et beaucoup d'autres dirigeants pour la corruption, pour les projets qui sont à l'eau, alors que tout l'argent donné par les bailleurs de fonds internationaux était dépensé. Récemment, un membre de Transparency International qui a été assassiné au Rwanda et les enquêtes n'ont jamais pu aboutir parce qu'il avait épinglé beaucoup de corruption de la part des autorités. En tout cas, démocratiquement, la tenance ne peut pas être liée aussi à un quelconque développement. C'est tout simplement un principe démocratique, un principe d'évolution. Donc, dire que le pays développé qui n'a pas besoin d'alternance, c'est la confiscation des droits du peuple rwandais à l'accès égal aux hautes fonctions de l'État.
Le juriste innocent Twagira Mungu, joint à Bruxelles.
Nous en parlions dans le journal. Shaker Amer, un Saoudien détenu dans la prison militaire américaine de Guantanamo depuis 2002, a été libéré. Il reste 112 prisonniers détenus dans cette prison américaine sur l'île de Cuba. Un quart d'entre eux sont considérés comme non jugeables et non libérables par les autorités américaines. Un statut illégal pour de nombreuses associations de défense des droits de l'homme. Nicolas Pinot a joint Nathalie Berger, responsable de la coordination aux États-Unis, pour Amnesty International France.
Toute libération est saluable et qu'elle va dans le bon sens, particulièrement celle de Shaker Amer qui était libérable depuis des années, comme un peu plus de 50 détenus encore à Guantanamo. On ne peut que se réjouir de son retour en Grande-Bretagne. Malheureusement, dans les détenus qui restent, l'administration Bush comme Obama a déclaré un certain nombre d'entre eux, autour de 30-35 aujourd'hui, détenus non jugeables, non libérables, ce qui est une vraie mascarade de justice. Donc cette prison effectivement risque d'être fermée, mais pour Amnesty International, ça n'est pas seulement la fermeture de Guantanamo que l'on demande, c'est la justice.
C'est-à-dire ?
C'est-à-dire que ces fameux détenus non jugeables, non libérables, le gouvernement américain souhaite transférer les personnes récentes à Guantanamo sur le sol américain. Or, ils vont les transférer sans qu'il y ait de procès. Ils vont les transférer dans des prisons qui sont dites des supermax, qui sont comme un petit peu des quartiers de très très haute sécurité, qui ont servi de modèle à la construction de la prison de Guantanamo. Donc en fait, ils changent le code postal.
Et est-ce qu'aujourd'hui, les conditions de détention à Guantanamo se sont améliorées ?
Alors depuis l'arrivée de Barack Obama, on a eu effectivement des témoignages comme quoi ces conditions de détention s'étaient quand même quelque peu améliorées, assouplies. Malheureusement, ce que l'on dénonce fortement, c'est cette détention à durée illimitée qui est une forme de torture. Et également, les techniques de gavage forcé qui sont employées encore aujourd'hui dans la prison de Guantanamo pour les détenus qui sont en grève de la faim, qui sont des techniques assimilées à de la torture, y compris par l'ONU.
Est-ce qu'aujourd'hui, l'administration américaine actuelle n'est pas dans une impasse, puisque pour fermer Guantanamo, il faudra l'autorisation du Congrès ?
Alors, ce n'est pas seulement l'autorisation du Congrès, mais effectivement, ça y participe. Mais ces détenus sont dans un vide juridique complet. Ils ont été enfermés de façon complètement illégale. Et effectivement, on est dans une grande difficulté pour obtenir à la fois la justice et la fermeture de Guantanamo.
Est-ce que ça repose pas finalement le vide juridique qui entoure les actions de certaines grandes puissances ?
Oh, bien sûr, les États-Unis ne sont pas les seuls à pointer du doigt. Et depuis très longtemps, Amnesty International a pointé également la responsabilité des pays européens, entre autres dans les prisons secrètes de la CIA. On est tous plus ou moins responsables de ces violations des droits humains qui ont été faites dans le cadre de la guerre contre le terrorisme.
Nathalie Berger d'Amnesty International.
Salut les amis, Roger Muntou, la voix de l'Amérique. Restez branchés chaque vendredi dans l'émission RM Show entre 20h et 21h, temps universel. Au menu, Island Music, la bonne musique des Caraïbes. Ne ratez pas votre émission interactive. Participez en direct. RM Show vous dit Peace Africa.
C'est la fin de cette édition à la mise en onde de Joselle Morissin. Présentation Morgane Guiriec et Chérubin Dorsil.
Il ne faut surtout pas oublier Tian Wang, notre ami, à la console. Ainsi va le monde aujourd'hui. On maintient la conversation sur Facebook. Partagez vos impressions, photos, posez des questions. Et n'oubliez pas de visiter notre site internet voafrique.com pour plus d'infos 24 sur 24.
Écoutez Le Monde Aujourd'hui, diffusé partout en Afrique francophone, à Bamako sur 102 FM. Raga FM Kinshasa, Soleil FM Conakry, 92.3 FM Radio Wentanga, Wayegouya Burkina Faso et bien d'autres encore. Sans oublier sur Ondes Courtes, Le Monde Aujourd'hui sur VOA Afrique.